Grainville PM. La voie est libre.
Ma conjointe a eu des problèmes de santé assez importants, des ennuis de santé qui ont fait en sorte qu'on a dû s'ajuster. Donc, à travers tout ça, c'est sûr qu'on a pu juste dans nos économies parce qu'on avait été prévoyants, mais ça n'a pas suffi là, sur une période de 2 ans ou à peu près.
Voici Luc Lavoie.
Bonjour Luc.
Salut Bernard.
Alors c'est Mathieu Lacombe, donc on entendait là, le ministre de la Famille qui témoignait en entrevue ce matin avec Paul Arcand. C'est ton bon coup ou ton mauvais coup du jour, ça?
C'est mon bon coup dans le sens du ministre, pas dans le sens du journal. Là, le ministre, là, il a choisi la meilleure technique possible en gestion de crise. Il s'est élevé ce matin puis il a vu une manchette, il a dû avoir un moyen coup. Wow! C'est parce qu'ils l'ont joué gros. Ils l'ont joué fort. Hein? Je pense que toute information a le droit de circuler, mais qu'à un moment donné, il faut mettre les choses en perspective. Alors, au lieu d'essayer de jouer, oui, c'est pas vrai, mais c'est à moitié vrai, il a dit les choses telles qu'elles étaient, très calmement, et tout le monde s'est rallié à lui, à ma connaissance, c'est unanime.
Vraiment, là. Toi, tu as eu la même chose dans ton émission à Québec.
Dans notre émission à Québec, les gens étaient même fâchés que nous, on ose en parler. Ouais. Parce que, tu sais, le gars, il n'a rien, mais vraiment rien fait de mal. Là. Écoute, c'est un jeune couple, ils n'ont même pas 30 ans, lui, il n'a même pas 30 ans, en tout cas, au moment où les événements se déroulent. Sa conjointe tombe malade, il y a un revenu qui disparaît, ils ont des dettes d'étudiants qui sont importantes, puis ils sont pas les seuls à avoir ça. Puis là, à un moment donné, il se retrouve serré à la gorge, puis il dit « j'y arrive plus ». Puis là, tu vas voir un conseiller financier, puis il va dire « écoute, à l'ultime limite, tu peux t'en aller en faillite, mais entre la faillite puis maintenant, il y a moyen de faire une proposition à tes créanciers. »
C'est ça.
Puis c'est exactement ce qu'il a fait. Puis la proposition a été acceptée.
Et voilà.
Il s'est conduit comme un citoyen parfaitement honorable. Ça, c'est une chose. Donc, mais la raison que j'en fais mon bon coup, c'est la façon, la candeur, l'ouverture, la sincérité dont il a fait preuve pour gérer cette situation-là. Il le disait dans une entrevue que j'ai entendue ce matin, que sa conjointe avait trouvé ça très dur, mais que lui, il acceptait qu'aller en politique, ses coups-là arrivaient. Je pense que le gars, d'abord, il avait charmé le Québec en entier lors de la sermentation avec ses 2 enfants.
Exact.
Ensuite, c'était un gars, là, puis oublions pas ça, là, c'était un gars qui avait, j'ai pas vérifié exactement la date, soit 28 ou 29 ans quand cette affaire financière-là s'est présentée. Lui, là, il a eu une enfance ultra difficile.
Oui.
Il a fini par être pris en charge par un oncle et une tante, qu'il dit d'eux qui l'ont sauvé.
Exact.
Mais donc, c'est pas quelqu'un qui pouvait se tourner vers son père, comme on a vu ça souvent, puis dire « Écoute, je suis dans une drôle de situation. Peux-tu m'avancer un peu d'argent, soit que je réduise ma dette, soit que j'ai suffisamment de liquidité pour nourrir les enfants puis rester en place? » Il pouvait pas faire ça. Il n'y en a pas, lui, de ces avenues-là. Alors, ce gars-là s'est conduit d'une façon parfaitement honorable. Déjà, avait charmé le Québec, mais là, aujourd'hui, je pense qu'il vient de devenir une plus grande vedette que jamais. Et j'avoue que j'aime pas beaucoup me livrer à la critique de la concurrence et ce genre de choses-là, mais je trouve qu'ils l'ont joué fort, pas à peu près. Là, tu sais, c'est une nouvelle, oui. Moi, je suis tout le temps...
Tu l'aurais joué comment?
Moi, je l'aurais joué un petit quart de page.
Oui. C'est une nouvelle, mais tu ne joues pas ça en première page, puis surtout pas avec le gros titre de la page frontispice.
J'ai trouvé ça énorme, je veux dire... Moi, je suis de ceux qui pensent que la nouvelle, faut qu'elle circule. T'sais. Puis les affaires qu'on dit, faut pas mentionner ça. Ben là, c'est parce que... Imprimons, tu sais, c'est qui que c'est? C'est le New York Times? All the news that are fit to print. Alors moi, je l'aurais publié, mais certainement pas avec autant de vacarme, parce que j'appelle ça du vacarme visuel, littéralement. Tu vois ça ce matin? Allô? Puis tu lis l'affaire, tu dis, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça?
Ça ne donne pas le goût d'aller en politique. On va dire une affaire, là...
Ça donne pas le goût d'aller en politique.
Tu te dis, Simonac...
Mais il a fait ça comme... Il a été génial, hein? Il a tourné ça à son avantage, le con. Moi, je pense qu'il est plus populaire là qu'il l'était, même après la scène avec ses enfants puis le lieutenant-gouverneur la semaine dernière.
Il est un plus grand actif pour le gouvernement Legault qu'il ne l'était avant la publication.
On doutera plus de sa sincérité, en tout cas. Le gars, il a pas essayé de tourner autour du pot.
Alors, 790-9850, si vous souhaitez réagir, dans le fond, sur l'ensemble, ce que ça vous inspire. Comment vous avez réagi, tiens, je vais le dire comme ça, comment vous avez réagi ce matin quand vous avez vu la nouvelle ou quand vous avez entendu parler de la nouvelle? Est-ce que vous vous êtes dit spontanément, ben voyons, pourquoi est-ce qu'on parle de lui de cette manière-là? Ou est-ce que vous avez douté? Peut-être que vous vous êtes dit, ah, ben là, il y a peut-être quelque chose de
ouais,
pas correct.
Peut-être une autre affaire t'sais. De croche.
Ouais, tu sais, il s'est-tu endetté, là, parce que...
Parce qu'il prenait de la dope, hein?
Ouais, ou parce qu'il il menait une vie de luxure.
Oui, oui, hein? C'est ça. Puis il prenait une grosse voiture de 80 000 $. Non!
C'est pas de ça dont il s'agit, là.
Pas du tout, du c'est tout, du tout. C'est quelqu'un s'agit. Vraiment de classe moyenne qui a eu une mauvaise passe puis qui a fait ce qu'il devait faire. Et ça le disqualifie certainement pas de la politique. Au contraire, il y a plus de 100 000 cas par année comme celui-là qui se règlent par des propositions ils appellent ça des propositions de consommateurs.
Ouais.
Au fond, tu fais une proposition à tes créanciers, tu dis, regarde mon bilan, quand même, tu m'en demanderais plus, je suis pas capable de t'en donner plus, mais au lieu d'avoir 4 % de ta créance, comme ma situation te l'offre maintenant, si tu signes une entente avec moi, donne-moi un peu de temps, tu vas en avoir 12.
Oui, puis dans ce cas-ci, si on se fie sur la nouvelle de Nicolas Lachance, alors il y a 56 paiements à payer, Mathieu Lacombe, 225 $ par paiement, ça correspond à 12 % des dettes qu'il avait accumulées, mais vaut mieux 12 % que 0 %.
Oui, puis aussi, il faut faire attention à une chose quand on regarde ce genre de nouvelles-là. Les créanciers, là, mea culpa, mea maxima culpa, là, ils ont prêté de l'argent à ce gars-là. Il avait juste à le vérifier, son crédit. C'est tellement facile de vérifier le crédit. Si tu fais du crédit trop grand à quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer, bien, mort-toi-en les doigts. Puis fais ta part, toi aussi, parce que ça se joue à deux, ces jeux-là.
On a Richard au bout du fil. Bonjour, Richard.
Bonjour à vous deux. Écoutez, ce matin, j'ai écouté une entrevue avec votre collègue. J'ai eu les larmes aux yeux dans mon auto parce que enfin, un homme politique humain, avec des problèmes humains, qui avoir un nom de radio pour être capable de parler de ses problèmes humains, là, ben là, la CAQ, là, puis son électorat, là, bravo, bravo, bravo. L'humanité.
Merci.
Très bien, Richard. Il y a beaucoup d'auditeurs, Luc, qui m'écrivent présentement à 98985 et puis qui questionnent, dans le fond, l'intérêt public de la nouvelle, qui sont vraiment pas convaincus que c'était une bonne idée d'étaler comme ça sur la place publique la situation personnelle d'un ministre. Et puis moi, j'aurais le goût de te dire la situation personnelle, en fait, de n'importe qui. Parce que franchement, là, on a tous, à un moment ou à un autre, des passes dures dans notre vie. Là.
Dans toi, notre vie, dans nos familles.
Tu étais un personnage public. Moi, je suis un personnage public.
Ouais, oui.
Je conçois très bien, moi, quand j'étais en politique, je concevais très bien que je devais être plus blanc que blanc. T'sais, je savais très bien, moi, là, si je me faisais arrêter là, en conduisant un fou, là, ça à 20 ou ça à 40, là, j'étais sûr que je faisais la première page du journal. J'acceptais cette contrainte-là.
Puis le pire, c'est que tu l'as encore. Honnêtement, là, nous qui sommes sur la place publique, là, si on fait des folies, on va le payer.
Mais là où je débarque, c'est quand on amène les enfants puis les conjoints puis les conjointes dans
ça,
c'est là que j'ai de la misère. Là,
oui,
j'ai
parce
de la misère.
Que c'est le dernier refuge du politicien, sa famille. Vraiment, là, Jean Lapierre, le regretté Jean Lapierre, disait toujours ça quand des gens lui disaient « ça me tente d'aller en politique, qu'est-ce que t'en penses? » Il disait toujours « protège ta famille, c'est bien ton sûr. Dernier refuge. C'est le dernier endroit où tu peux rentrer chez vous puis dire « bon, tout va bien ici, on peut se faire des blagues, on peut... »
Puis franchement, Luc, la famille, c'est pas juste ton dernier refuge quand t'es en politique.
C'est ton dernier refuge, point.
Puis des fois, tu sors de la politique, puis je dirais même souvent, tu sors de la politique, puis c'est tout ce qui te reste.
En effet. Hein? C'est exactement ça.
C'est tout ce qui te
complètement
reste.
D'accord avec toi, Bernard.
OK, on s'en va rejoindre Félix. Bonjour, Félix.
Bonjour, messieurs. Moi, j'irais même plus loin que monsieur Lavoie. Je trouve que c'est même pas une nouvelle, à vrai dire. Je trouve que ça fait un petit peu journalisme de petite classe. Ça fait un peu journaliste qui veut se mettre sa map. Je trouve que la seule chose que ça apporte, ça informe pas les gens. Ça augmente le cynisme envers les politiciens. Puis ça décourage ceux, les jeunes, dont moi, je suis un jeune, les jeunes qui seraient tentés de faire un saut en politique.
Pourquoi Félix? Dommage. Pourquoi? Pourquoi ça peut...
Ben, parce que je trouve que c'est même pas quelque chose qui peut remettre en question sa candidature. Tu sais, je vois pas... Je lisais l'article de ce journaliste ce matin. Je regarde, moi, on voit que le journaliste nous fait part de ses actifs et de ses passés. Je sais pas si c'est juste moi, mais je vois pas en quoi ça nous concerne.
Vous êtes senti, Félix... Je vais mettre des mots sur ce que vous dites, là, puis je vais mettre des mots par rapport à ce que vous dites, mais par rapport à comment je me suis senti ce matin. Moi, je me suis senti un petit peu voyeur ce matin, puis j'ai pas aimé ce feeling-là. Est-ce que c'est ça que vous avez ressenti, vous?
Oui, exactement. Les chefs se sont prêtés à l'exercice, puis il y avait un certain malaise à montrer leur actif, leur passif. Je vois pas pourquoi un citoyen honnête comme il a agi, qui aurait à... Puis on va... De toute évidence, ils n'ont même pas dévoilé ses actifs, ses passifs-là. De toute évidence, c'est un journaliste qui a fouillé puis qui nous sort ça sur la place publique un matin. Je trouve ça très dommage. Puis je trouve que ça fait très peu professionnel.
Merci. Merci, Félix, pour l'appel.
Merci.
Non, parce que ces ententes-là, ce n'est pas des ententes publiques, là. C'est des ententes confidentielles.
Mais tu me demandes comment ils ont mis la main là-dessus, mais c'est d'autres choses.
Oui, voilà. Hélène, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Moi, c'est pour appuyer le ministre. Franchement, c'est bravo. Depuis ce matin, j'ai les larmes aux yeux. Je trouve qu'avec l'endettement, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un problème social, comme les pauvres pères qui ont des grosses pensions alimentaires à payer. Ça les amène à une pauvreté extrême. Je trouve ça... Tu sais, il n'y a pas personne pour la société là, qui peut les aider, eux autres. Il n'y a rien pour les appuyer. Fait que franchement, moi, je trouve ça bravo qu'ils aient mentionné ça aujourd'hui à la radio.
Très bien. Merci beaucoup, Hélène. On s'en va rejoindre Claude. Bonjour, Claude. Claude, est-ce que vous êtes là?
Oui, bonjour, monsieur Drainville. Moi, là, j'ai 76 ans. Quand j'ai vu monsieur Lacombe à la sermentation, là, il m'a assez touché au cœur, ce monsieur-là, là. C'est incroyable. Bon, oui, qu'il adore ses enfants, puis ses enfants l'adorent. Sortir une nouvelle de même, là, je trouve ça dégueulasse, la pire espèce.
Ah, mais c'est clair, merci. Votre position, merci, c'est toi. Clair. Moi aussi, je trouve ça un peu difficile. Mais moi, où je fais la ligne, c'est Bernard, j'ose pas dire à qui, dans les médias, j'ose pas dire à quiconque, publier ou ne publier pas. C'est un autre choix. Mais l'ampleur puis le traitement qu'on donne à la nouvelle, ça, c'est des gros problèmes.
On va s'arrêter là-dessus parce qu'au retour, tu vas nous parler de ta mauvaise nouvelle du jour.
Voilà.
Et la mauvaise nouvelle, je pense que ça concerne Justin.
Oui, un peu.
Si vous voulez entendre parler Luc Lavoie de Justin Trudeau, restez à l'écoute.
Des sujets qui vous touchent et qui vous font réagir. Voici Bernard Drainville.
De retour donc avec La Voix est libre. Luc, tu vas nous parler de la taxe sur le carbone que Justin Trudeau a annoncée aujourd'hui.
C'est une des choses les plus absurdes que j'ai vues en politique depuis extrêmement longtemps. Tu sais, il a créé sa bourse sur le carbone.
Ben, en fait, le Québec
a adhéré, l'Ontario.
Oui, le Québec, en fait, a adhéré à la bourse sur le carbone que la Californie avait été la première.
D'accord. Non, mais on parle d'ici de la juridiction canadienne. Le Québec, l'Ontario, était dans ça. L'Ontario, avec le nouveau gouvernement de Doug Ford, s'est retiré.
C'est ça.
Alors là, tu te retrouvais avec le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Ontario qui ne voulaient pas participer à ça. Alors, Trudeau a dit, mais je vais vous taxer, mais j'ai une nouvelle méthode, elle est bonne, ma méthode. Je t'ai envoyé un chèque, puis je te taxe après, pour récupérer l'argent que je t'ai donné dans un chèque. Je trouve ça, écoute, c'est absurde, c'est pas possible.
Alors ça, c'est...
Là, ben, moi, je suis allergique aux taxes, là.
Ouais,
on
ouais.
est taxé jusqu'aux oreilles.
Ouais.
Voilà un gouvernement fédéral qui a 18-19 milliards de déficit alors que c'était supposé être en bas de 10, rendu à ce stade-ci.
T'es supposé être proche de zéro à ce stade-ci.
À ce stade-ci, en effet, ouais. proche de zéro, 10 au départ.
Exact,
en tout cas.
Exact.
Et là, on est à un an de l'élection. Que fait-il? Il dit, ben, si je leur envoie un chèque, parce que la taxe s'impose à partir du 1er avril, il va arriver après les élections, pas bon ça. Y a-tu moyen de leur envoyer le chèque?
Avant!
Donc, c'est comme s'il vit un fantasme. Moi, bon libéral, fils de Pierre Elliott, tout ce que vous voulez, j'aime les taxes. Puis moi, ce qui m'excite dans la vie, c'est les taxes. Tu veux me donner du fun, là? Donne-moi une taxe. Alors là, je n'ai une, mais en même temps, je veux me faire élire, puis présentement, Scheer puis les conservateurs me chauffent les fesses un peu, puis Doug Ford en Ontario, ça marche, il y a un niveau de popularité assez étonnant. Là, je suis pris dans ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, l'année prochaine, tu vas payer un 300-400 piastres de taxes, moi, te l'avancer.
Exact.
Qu'est-ce que t'en penses?
C'est ça qu'il fait.
Mais c'est fou. Là, parce ça, que la à quoi ça me fait penser, Bernard? C'est quand il y a eu le crash là, des subprimes aux États-Unis. Tu sais ce qu'ils faisaient, les vendeurs? Je l'ai vu de mes yeux. J'avais été en Ohio quand ça se passait. Il arrivait puis il disait à quelqu'un, « L'aimes-tu la maison qui est là? » 450 000. Le gars disait, « Mais oui, mais moi, je suis plombier, là, puis ma femme est prof au primaire. On peut pas avoir une maison de 450 000. » Puis là, « Tu as tort. » Non seulement je vais te prêter la totalité du 450 000, mais étant donné que la courbe vers le haut de la valeur de l'immobilier, elle ne cesse pas de monter.
Elle vaut 500 000 dans deux ans, je vais te prêter 500.
Mais c'est ça, mais on va te prêter 500, puis ainsi tu vas avoir tout ce qu'il faut pour repayer. Alors, puis quand tu vas arriver au bout, sais-tu quoi? Ça va avoir encore monté d'un autre 50, 60.
Si tu veux, je te prête un autre 50 à ce moment-là, ça va me faire plaisir. C'est ça.
Puis à un moment donné, ça a frappé dans le mur. Ouais. Là, évidemment, ça ne frappera pas dans le mur, mais ça va certainement frapper l'imaginaire par l'absurdité de la chose. Je vais te taxer, mais je vais
t'avoir... 4 cents du litre. Vais... Hein? 4,4 cents du litre d'essence.
Qui va monter jusqu'à 11, hein?
Oui.
Ça va monter jusqu'à 11 en 2022.
Exact.
Alors...
mais à partir du 1er avril, ça va être 4 cents du litre, 4,4, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan. Mais pour être bien sûr que ça fait pas mal, il va envoyer aux citoyens, y compris aux enfants, soit dit en passant. Je te dis, c'est pas des blagues. Le premier, ça peut aller jusqu'à 600 $ en Saskatchewan.
C'est comme il se dit, hey, là, je suis rusé. Vous pensez que je ne suis pas rusé? Eh bien, vous allez voir le rusé Justin. Il va vous envoyer l'argent, comme je racontais pour les subprimes. Vous envoyez l'argent d'avance. Après, moi, vous taxez à petite goutte. Là, ça, vous allez avoir un beau petit chèque. Ça tombe à deux moments clés dans notre histoire. Premièrement, au moment de vos vacances. Quand un petit chèque de 300 piastres quand tu pars en vacances, c'est mieux qu'une claque le long d'une oreille. Puis, ça arrive aussi, ma foi, trois mois avant l'élection. Mon Dieu que ça donne bien!
Pour une famille de quatre, le premier adulte aura droit à un chèque ou un crédit d'impôt parce qu'ils vont payer ça. Le fédéral va payer ça au moment de l'impôt. Alors, le premier adulte, 300 $. Le deuxième adulte, 150 $. Ça, c'est ton avance sur la taxe sur l'essence.
Honnêtement, as-tu déjà vu quelque chose d'aussi absurde?
75$ pour les enfants par la suite. 75$ par enfant.
Donc, le prix de collecter la taxe, parce qu'il y a un coût à collecter une taxe, là, il y a des bureaucrates qui sont là-dedans, puis tout ça. Ça, là, on n'en tient pas compte.
Mais tu comprends la logique derrière ça? La logique de réduire les gaz à effet de serre.
Ah, ça, c'est d'autres choses.
Parce qu'il dit, si
c'est parce que en faisant une affaire de même, tu réduis pas les gaz à effet de serre. Ça, c'est clair.
C'est ce qu'il dit.
Ah, ben, il dit ça. Je comprends qu'il dit ça, mais
si
je pense que.
Le prix, si t'augmentes, parce que sa logique, c'est, t'augmentes le prix de l'essence.
Ça va, la transition va se faire plus vite vers d'autres énergies.
Les gens vont consommer moins d'essence.
Ce qui n'est pas en soi faux.
Exact.
Okay?
Exact.
C'est pas faux, ça.
C'est ça.
Mais moi, le procédé qu'il est en train d'utiliser, c'est comme, écoute, là.
Parce que de prendre une taxe puis de dire je vais la redonner, je vais prendre l'argent puis je vais la redonner aux citoyens, tu peux pas être contre ça. Le problème, c'est qu'ils redonnent avant même d'avoir taxé. Et c'est là que ça devient carrément électoraliste.
Ben, la deuxième version, celle que tu viens d'exprimer, ça devient carrément électoraliste. Mais la première aussi, Bernard, tu trouves pas qu'on a assez de taxes? Arrête de me taxer si tu veux me leur donner. Veux-tu me la laisser dans mes poches?
Mais c'est parce que faut que tu décides à un moment donné... Qu'est-ce qu'on est, faut décider collectivement, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour diminuer notre consommation d'essence? Parce que la principale source de production des gaz à effet de serre, c'est l'essence, c'est le transport.
Il y a même Paul Krugman, le fameux columniste du New York Times, qui a eu un prix Nobel d'économie, qui lui disait, il faut le monter, il faut doubler le prix de l'essence. Évidemment, nos sociétés ne l'avaleraient pas facilement parce qu'il disait, en faisant ça, on va dégager les sommes voulues pour faire la recherche et le développement. Puis on va aussi encourager fortement les gens à aller vers d'autres modes d'énergie. C'était trop, là, la recommandation de Krugman. La thèse que tu avances, je la supporte.
Ouais.
Mais les taxes, ça me fatigue, Bernard. Puis quand tu arrives avec des patentes de même, je t'avance le cash, je vais te taxer. Combien de temps il va avancer le cash? Il va faire ça tous les années. Est-ce que c'est récurrent? Ou c'est juste une petite shot électorale?
Ben, c'est-à-dire que l'année suivante, il va avoir collecté la taxe sur l'essence pendant toute l'année 2019. Donc, quand va arriver le temps des impôts de 2020,
ouais,
il va t'envoyer un chèque. Il va t'envoyer un chèque ou il va le déduire de ton impôt.
A-t-il promis que c'était récurrent? C'est ça que
Ah oui, c'est sûr que c'est récurrent.
Ben,
Luc, c'est récurrent. Oublie ça, c'est récurrent.
La taxe, oui, mais le chèque...
Bien sûr. Ben oui. C'est récurrent, certain. Parce qu'il dit
jusqu'à ce qu'il soit réélu, qu'il réalise que son déficit est encore à 2022, il n'est plus capable.
Ça serait,
il va changer la loi.
Ça serait écœurant.
Ben oui.
Écœurant dans le mauvais sens du terme.
Ben, il
fallait qu'après sa réélection... mettons, on jase, mettons qu'il est réélu l'automne prochain, puis qu'on se retrouve avec un ralentissement économique, avec des revenus moindres, puis que le déficit se met à augmenter, puis qu'il décide qu'effectivement, la fameuse taxe fédérale sur l'essence, il ne la retourne plus aux citoyens, puis qu'il garde ça dans un coffre pour réduire son déficit. Et ça serait, mais m'a dire là, ça serait cynique.
Bernard,
Luc Lavoie.
1974, Pierre-Éliott Trudeau fait campagne contre Robert Stanfield. Et Robert Stanfield, sa principale promesse, c'est un gel des prix et des salaires, parce que c'était une époque où l'inflation tournait autour de 14, 15, 16
%. Absolument.
Trudeau
sous l'influence des prix du pétrole, d'ailleurs.
Ah oui. Et Trudeau mène une campagne contre Stanfield avec toutes sortes de gestes. Zap!
Zap, you're frozen!
C'est ça?
Exact.
Toute l'affaire, il arrive au pouvoir avec une majorité qu'il n'avait plus, puis deux mois après... Il gèle les prix et les salaires.
Non, mais ça, c'est cynique en maudit.
Mais c'est parce que je pense que ça coule dans leurs veines, je ne sais pas trop quoi. Tu te fais élire en majorité.
J'irai pas là, Luc Lavoie.
J'ai beaucoup admiré Pierre-Éliott Trudeau, alors c'est d'autres choses, mais le fait est que je trouve que c'est des méthodes. Quand quelqu'un disait tantôt, parlant du cas de Mathieu Lacombe, ça fait augmenter le cynisme à l'égard des politiciens. Ça, là, cette affaire-là, là, ça, c'est le cynisme total.
Mais je vais dire, il y a une chose, ça risque de rebondir dans la Cour du Québec, cette affaire-là, parce que tu sais qu'actuellement, avec la bourse...
Mais nous autres, on ne l'aura pas, le chèque.
Non, on ne l'aura pas, parce que la bourse sur le carbone, c'est les entreprises, évidemment, qui payent pour acheter des droits de produire de la pollution. Et quand ils obtiennent, quand ils atteignent leurs objectifs, mettons qu'ils réduisent les gaz à effet de serre plus que les droits qu'ils ont achetés, à ce moment-là, ils ont le droit de vendre les droits puis faire de l'argent.
C'est ça.
Bon, mais évidemment, quand des entreprises achètent des droits de polluer à la bourse du carbone, ils refilent cet argent-là, cette dépense-là, dans les produits et les services qu'ils nous vendent.
Oui.
Donc, la bourse, évidemment, la taxe sur le carbone, nous autres, on la paye, les Québécois, à travers les services et les produits des entreprises qui sont inscrites à cette dite bourse.
Exactement.
L'argent...
Bernard.
La vente des droits d'émission, tu sais où ça s'en va? Ça s'en va dans le fond vert. Ben oui.
On en a un au Québec.
Ben oui, c'est ça que je te dis.
Regarde les voitures Théo, là, c'est ça. C'est le fond vert, ça.
Exact. Alors, la question que je te pose, puis je pense qu'il y a quelqu'un, j'espère qu'il y a quelqu'un au Parlement qui va la poser. Si dans les autres provinces, grâce à la taxe sur le carbone, ils ont droit à un remboursement fédéral,
puis les autres au Québec, on y a pas droit.
Pourquoi au Québec, il n'y aurait pas une partie du fond vert qui serait utilisée sous forme de remboursement. Qu'il y a certains projets qui ont été financés par le Fonds vert qui n'auraient jamais dû être financés par le Fonds vert.
Point de départ,
ça n'avait rien à voir avec l'écologie.
La question que tu soulèves est extrêmement légitime. Puis elle va se poser à lui très, très, très rapidement. Puis là, le monde va se perdre là-dedans, la bourse de quoi? Comment ça se fait qu'envoyer un chèque de 300-400 à Saskatchewan?
Mais moi, pas envoie pas au Québec.
C'est quoi ton
affaire? Parce que la bourse du carbone...
Il va au Québec,
parce
c'est
que c'est Québec qui collecte l'argent. À Québec, c'est Québec qui collecte. Alors qu'en Saskatchewan, puis ailleurs, c'est Ottawa.
Je trouve que ça fait petite gamique de politique de bas de gamme au ras des pâquerettes, pas à peu près.
Bon, ben écoute, c'est dit.
Voilà. Ce qui est dit, est dit.
Absolument. Et c'était très clair. Je t'en remercie, mon cher Lavoie, et on se reparle demain.
À demain, Bernard.
Je veux juste vous informer, parce qu'on a ouvert l'émission avec ça, je vous ai parlé hein, de ces traitements de chimiothérapie. Alors, certains patients au Québec n'auraient pas reçu la pleine dose de chimiothérapie à laquelle ils avaient droit, dont ils avaient besoin dans le combat qu'ils menaient contre le cancer. OK? Donc, on sait, là, ça a été révélé publiquement par Le Devoir, ça a été confirmé par le ministère de la Santé, des Services sociaux et des patients atteints de cancer qui n'ont pas reçu leur pleine dose de chimiothérapie. Et là, on a su, dans l'entrevue que j'ai faite avec le président de l'Association des médecins hématologues, on a su que la rumeur qui courait chez les oncologues au Québec, c'est qu'il s'agirait d'un établissement. Il y aurait un établissement où ça se serait produit pour un nombre de patients non déterminés. Et là, je vous rapporte qu'au bureau de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme McCann, parce qu'on est entré en contact avec eux, ils nous sont revenus pour nous dire que le nom de l'établissement où ça s'est produit sera rendu public et le nombre de patients aussi sera rendu public une fois que les patients auront été contactés. Les patients actuellement qui n'ont pas reçu la pleine dose de chimiothérapie et qui ne le savaient pas, sont en train d'être informés de cela. Et dès que ce sera fait, le nom de l'établissement, le nom de l'hôpital et le nombre de patients touchés sera rendu public. Voilà, dans un instant, on change complètement de registre. On va vous parler d'un petit insecte qui court un peu partout chez nous, qu'on voit une fois de temps en temps, ça ressemble un peu à un mille pattes. Hein?
C'est quoi?
Et tabarouette. Luc, ça c'est s'appelle... Quoi? Ça s'appelle... Attends, tu peux me dire ça. Ça s'appelle... Ça s'appelle un scutigère.
Ah, oui, scutigère! J'en mangeais quand j'étais jeune. On faisait ça avec... On faisait revenir ça avec du beurre.
Garde de quoi t'as l'air aujourd'hui.